Aujourd'hui, je vais vous lire Vers la vision du temps supramental, chapitre 25 de la synthèse des yogas, le yoga de la perfection de soi, le quatrième livre de Sri Aurobindo. Tout être, toute conscience, toute connaissance se meut secrètement pour notre perception superficielle actuelle. Manifestement, quand nous nous élevons au-dessus jusqu'aux régions spirituelles et supramentales, entre deux états ou deux pouvoirs d'existence, celui de l'infini hors du temps et celui de l'infini qui déploie toutes choses en lui-même et les organise dans le temps. Ces deux états ne sont contraires et incompatibles que pour notre logique mentale qui trébuche constamment dans l'embarras d'une fausse conception contradictoire et dresse l'un contre l'autre deux opposés éternels. En fait, lorsque nous voyons les choses avec une connaissance fondée sur l'identité et la vision supramentale et que nous pensons avec la grande logique profonde, souple, où des mouvements coexistants et simultanés d'une vérité de l'infini. L'infini hors du temps contient en lui-même, en la vérité éternelle de son être, par-delà la manifestation, tout ce qu'il manifeste dans le temps. Sa conscience temporelle est aussi également infinie et porte en elle-même, simultanément, dans une vision des totalités et des particularités de la succession mouvante ou regard mouvementé et de la totalité stable ou regard global permanent. Ce qui nous apparaît comme le passé des choses, leur présent et leur avenir. La conscience de l'infini hors du temps peut se faire sentir à nous de diverses manières, mais le plus souvent elle s'impose à notre mentalité par un reflet qui laisse une impression puissante ou encore elle se fait percevoir comme quelque chose qui est au-dessus du mental, quelque chose dont il est conscient et vers quoi il s'élève, mais en quoi il ne peut pas entrer, car il ne vit que dans le sentiment du temps et dans la succession des moments. Si notre mental actuel non transformé par l'influence supramentale essaye d'entrer dans le sans-temps, il est obligé de disparaître et de se perdre dans la transe du samadhi. Ou s'il reste éveillé, il se sent diffusé dans un infini en lequel il perçoit peut-être un espace supraphysique, une immensité, une étendue de conscience sans limite, mais pas de moi temporel, pas de mouvement temporel ni d'ordre temporel. Et même si alors l'être mental encore mécaniquement conscience de ce qui se passe dans le temps, il est cependant incapable d'avoir prise sur les événements à sa manière mentale, incapable d'établir un rapport de vérité entre le sentant et les choses dans le temps, incapable d'agir et de vouloir depuis son infini indéfini. La seule action qui reste alors possible au Purusha mental est le fonctionnement mécanique des instruments de la Prakriti, qui continue d'œuvrer par la force de l'impulsion et de l'habitude ancienne ou par le mouvement perpétué de l'énergie passée, Prarabdha, ou encore une action chaotique, déréglée, non coordonnée, le précipité confus d'une énergie qui n'a plus de centre conscient. Par contre, la conscience supramentale se fonde sur la conscience suprême de l'infini sans temps. Mais elle possède aussi le secret du déploiement de l'énergie infinie dans le temps. Elle peut prendre position dans la conscience du temps et garder l'infini sans temps comme un arrière-plan d'être suprême et originel d'où elle reçoit toute sa connaissance organisatrice, toute sa volonté, toute son action, ou bien centrée en son être essentiel. Elle peut vivre dans le sans-temps, mais vivre aussi dans la manifestation temporelle qu'elle sent, voit comme infini, comme le même infini. Et elle peut projeter, entretenir et façonner en l'une ce qu'elle contient suprêmement en l'autre. Premièrement, sur son identité éternelle par-delà les changements du temps. Deuxièmement, sur une éternité de temps simultanée où le passé, le présent et l'avenir coexistent à jamais en la connaissance essentielle et le pouvoir essentiel de l'éternel. Troisièmement, sur une vision totale des trois temps perçus comme un seul mouvement indivisiblement vu d'un seul regard au milieu de la même succession de leurs étapes, de leurs périodes et de leurs cycles. Et finalement, mais ceci seulement au niveau de la conscience instrumentale sur le déroulement pas à pas des moments. Elle aura donc la connaissance des trois temps, Trikala Drishti. Autrefois considéré comme le signe suprême du voyant et du Ritchi. Mais ce ne sera pas là un pouvoir anormal, mais sa manière normale de connaître le temps. La conscience du temps unifié et infini et cette vision, cette connaissance sont la possession de l'être supramental en sa suprême région de lumière. Elles ne sont complètes qu'au niveau les plus hauts de la nature supramentale. Mais du fait de l'ascension de la conscience humaine et du cheminement évolutif du yoga, avec ses élévations et ses transmutations, c'est-à-dire le dévoilement de soi, le développement de soi et le perfectionnement progressif de soi. Nous devons donc tenir compte des trois états successifs qui doivent tous être dépassés si nous voulons nous mouvoir au niveau suprême. Le premier état de notre conscience, celui dans lequel nous nous mouvons maintenant, est le mental d'ignorance, issu de l'inconscience et de la naissance de la nature matérielle. Il est ignorant, mais capable de chercher la connaissance et de la trouver. Il est ignorant, mais capable de chercher la connaissance et de la trouver, ou du moins d'en faire une série de représentations mentales dont nous pouvons nous servir comme indice de la vraie vérité. Et à mesure qu'elle se raffine, s'illumine, deviennent transparentes par l'influence, par l'infiltration et par la descente de la lumière d'en haut, ces représentations peuvent préparer l'intelligence à s'ouvrir à la capacité de connaissance véritable. Pour ce mental, la vérité est quelque chose qu'il ne possède pas originellement, mais qu'il a dû acquérir ou qu'il doit encore acquérir quelque chose d'extérieur à lui-même et qu'il faut obtenir par l'expérience ou en suivant certaines méthodes établies et règles d'investigation, de calcul, d'application, des lois découvertes et d'interprétation des signes et des indices. Sa connaissance même implique un manque de connaissance antérieure. C'est un instrument de l'avidya. Le second état de la conscience n'existe encore que potentiellement pour l'être humain et ne peut s'acquérir que par une illumination et une transformation intérieure du mental d'ignorance. C'est l'état dans lequel le mental cherche sa source de connaissance au-dedans, au lieu du dehors, où, d'une manière quelconque, il se perçoit et s'éprouve comme un mental de connaissance qui s'est oubliée elle-même au lieu d'un mental d'ignorance originelle. Ce mental est conscient que la connaissance de toute chose est cachée en lui, ou du moins quelque part dans l'être, comme voilé et oublié. La connaissance ne lui vient pas comme un objet acquis du dehors, mais comme quelque chose qui est toujours là, secrètement, et dont il se souvient maintenant et qu'il sait immédiatement être vrai. Chaque chose a sa place, à son niveau, à sa manière et à sa mesure. Telle est son attitude vis-à-vis de la connaissance, même si l'occasion de connaître lui vient d'une expérience, d'une indication ou d'un signe extérieur, parce que ces données ne lui sont pour lui qu'un prétexte et que pour la vérité de la connaissance, il s'appuie sur la confirmation du témoignage intérieur et non sur des indications et des preuves extérieur. Le vrai mental en nous est le mental universel. Le mental individuel est simplement une projection à la surface. Par conséquent, ce deuxième état de conscience se révèle à nous soit quand le mental individuel entre profondément au-dedans, et qu'il est toujours consciemment ou subconsciemment proche et sensible au toucher de la mentalité universelle en laquelle tout est contenu, reçu et susceptible de se manifester, soit d'une façon plus puissante encore, quand nous vivons la conscience du mental universel. Notre mentalité personnelle n'étant plus qu'une sorte de projection, de tableau de bord ou de commutateur des communications à la surface. Le troisième état de la conscience est celui du mental de connaissance, un mental où toutes choses et où toutes les vérités sont perçues et éprouvées comme déjà présentes, connues et immédiatement disponibles pour la simple fait de tourner sur elles la lumière intérieure. Exactement. Exactement comme on tourne son regard dans une chambre sur des choses déjà connues et familières. Bien qu'elles ne soient pas toujours présentes à la vue parce que le regard n'y est pas attentif. Et lorsqu'on les remarque comme des objets précédemment connus, la différence avec le second état où la conscience est oublieuse d'elle-même et qu'ici, ni l'effort, ni la recherche ne sont nécessaires. Simplement, il suffit de tourner la lumière intérieure et de l'ouvrir sur n'importe quel champ de connaissance. Ce n'est donc plus un appel des choses oubliées et qui se cachent au mental, mais la représentation lumineuse des choses déjà présentes, prêtes et disponibles. Ce dernier état n'est possible qu'avec la supramentalisation partielle de la mentalité intuitive et son ouverture complète à toutes les communications des régions supramentales. Ce mental de connaissance est essentiellement un pouvoir d'omnipotence potentielle, mais son fonctionnement pratique au niveau du mental est d'une étendue et d'un rayon limité. Ce genre de limitation s'attache même au supramental quand il descend au niveau mental et doit œuvrer dans la substance inférieure de la mentalité, bien qu'œuvrant à sa manière et avec son propre corps de pouvoir, de lumière, elle persiste même dans le fonctionnement de la raison supramentale. Seule la volonté et la connaissance de la Shakti supramentale supérieure, agissant dans ses propres régions, opère toujours dans une lumière sans limite et peuvent librement et illimitablement étendre leurs connaissances, à moins que l'esprit ne s'impose à lui-même certaines limitations pour ses propres desseins et par sa propre volonté. La connaissance et la vision vraie directe du passé, du présent et de l'avenir commencent avec l'ouverture de la conscience psychique et des facultés psychiques. La connaissance psychique est celle qui vient de ce qu'on appelle souvent maintenant le moi subliminal. L'étendue de sa connaissance potentielle est presque infinie, comme nous l'avons déjà indiqué dans le chapitre précédent. Elle recèle un vaste pouvoir de clairvoyance et de nombreuses formes de pénétration, non seulement dans les possibilités, mais dans les réalités précises du présent, du passé et de l'avenir. Son premier don, celui qui attire le plus facilement l'attention, est sa capacité de voir l'image de tout ce qui se trouve dans le temps et dans l'espace à l'aide du sens psychique, tel que les clairvoyants médiums et autres s'en servent, et c'est souvent, en fait, généralement, une faculté spécialisée et limitée, bien que fréquemment précise, exacte dans son fonctionnement. Et elle ne demande aucun développement de l'âme intérieure ou de l'être spirituel, ni de l'intelligence supérieure. C'est une porte ouverte par hasard, ou par un don inné, ou par une sorte de pression qui s'exerce entre le mental de veille et le mental subliminal. Mais elle ne donne accès qu'à la surface du subliminal ou à ses périphéries. Il existe un certain pouvoir et un certain fonctionnement du mental universel secret où tous les événements sont représentés par des images, non seulement des images visuelles, mais si l'on peut dire des images auditives, et autres. Or, certains développements des sens subtils ou psychiques permet du mental bâtisseur d'imagination, c'est-à-dire si des images mentales artificielles ou falsificatrices ne viennent pas s'immiscer, si le sens psychique est libre, sincère et passif, de recevoir ces représentations ou ces transcriptions avec une exactitude parfaite, et non pas de temps de prédire que de voir des images correctes du présent hors de la portée des sens physiques, des images du passé et de l'avenir. Pour être exact, ce genre de vision doit se borner à l'énoncé de l'événement vu. Si l'on cherche à inférer, interpréter ou aller plus loin que la connaissance visuelle, on s'impose à de nombreuses erreurs, à moins qu'elles ne s'accompagnent simultanément d'une forte intuition psychique, fine, subtile, pure, et d'un haut niveau de développement de l'intelligence intuitive lumineuse. Voilà, je termine aujourd'hui vers la vision du temps supramental de Sri Aurobindo. Je dépose aujourd'hui cette lecture aux pieds de Sri Aurobindo et de Douce Mère. Merci Sri Aurobindo. Merci Douce Mère. Ganga Lakshmi.